voix marseillaise. Fin 1940, du côté de la Porte d'Aix à Marseille, une coopérative discrète et pleine d'effervescence s'installe rue des 13 escaliers, aujourd'hui disparus. On y fabrique une pâte de fruits à base de dattes, de figues et de fruits secs, le croque-fruit. Cette simple friandise, nourrissante par les temps qui courent, va aider sacrément des dizaines et des dizaines de personnes pendant 2 ans. Elles sont venues à Marseille trouver refuge. Toutes ces personnes sont dans le viseur des autorités nazies et celles du régime de Vichy. Les Allemands n'occupent pas encore la zone sud en France. Ce sera chose faite en novembre 1942, date à laquelle la coopérative du croque-fruit va devoir cesser ses activités. En attendant l'arrivée des Allemands et les risques mortels que cela va engendrer, des intellectuels, des gens du monde des arts et de la culture, des communistes, des trotskistes, bref, tous ceux qu'haïssent Hitler et Pétain, vont y travailler. Bien que les temps soient durs et incertains, ils vont trouver au croque-fruit une ambiance joyeuse, une solidarité et une franche camaraderie. Un havre de paix, un cocon au milieu de la guerre qui est en train de frapper l'Europe tout entière. Pour évoquer cette aventure extraordinaire du croque-fruit, j'ai invité aujourd'hui Irène Itkin. Son père Lucien et son oncle Sylvain ont fait partie de l'équipe qui a imaginé et dirigé cette coopérative. Vous entendrez durant l'émission des extraits d'un spectacle donné en 2013 à la bibliothèque de l'Alcazar, racontant l'aventure humaine du croque-fruit.
De la coopérative du fruit Mordeaux. Chacun des coopérateurs touche un salaire et une part des bénéfices égaux. Règles d'admission. Un personnel coopérateur nouveau pourra être coopté à l'unanimité des voix du comité de direction. Chaque collaborateur nouveau devra faire un stage, minimum 1 semaine, maximum 2, et touchera pendant la durée de ce stage un salaire quotidien fixe décidé par le comité de direction. Ce stage sera considéré comme terminé et le membre nouveau coopté, s'il y a lieu, quand le rythme de son travail correspondra au rythme général de la production. Il est bien entendu que toutes facilités seront accordées à chacun pour augmenter les heures de liberté qui lui sont nécessaires, sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de l'affaire. Le but poursuivi sera l'emploi du maximum possible de personnel, la rationalisation du travail, la réduction des heures de présence, la souplesse de l'organisation intérieure.
Tout le monde ici gagne la même chose, à l'exception des 3 administrateurs. Les bénéfices sont employés à améliorer les conditions de travail. J'ai certainement besoin d'une avance, je suppose.
Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et quel lien vous avez avec le croque-fruit ?
Alors, je suis la fille de Lucien Itkin et donc aussi la nièce de Sylvain Itkin. Qui a été très importante dans la création. C'est Sylvain Itkin avec sa sœur, Georgette, son mari. Enfin, ils étaient 7 au début. Et donc, je suis la nièce de Sylvain Itkin, qui est apparemment, d'après l'histoire, un peu à l'initiative de la création de cette coopérative du fruit mordoré.
Alors justement, quelle était l'idée à l'origine de cette aventure du fruit mordoré ? Donc, on rappelle cette aventure qui s'est déroulée entre la fin de 1940 et la fin de 1942 à Marseille, au moment où il y avait la guerre et où beaucoup de gens étaient en fuite. et venaient se réfugier à Marseille.
Les gens qui étaient en danger, soit parce qu'ils étaient juifs, soit parce qu'ils étaient de gauche ou d'extrême gauche, ils ne restaient pas dans la zone occupée par les Allemands. Ils allaient dans la zone dite la zone nono, la zone dite libre. Et donc, il y a un groupe assez petit au début, puisqu'ils sont 7, qui se retrouvent à Marseille. Et après, il y en a d'autres. Il y avait aussi des gens des auberges de jeunesse, parce que les auberges de jeunesse étaient mal vues par la droite française. Hein. Alors, le but, c'était de trouver un refuge. Mais c'était aussi parce qu'il fallait manger. Donc, ils ont créé une entreprise qui allait fabriquer des friandises. C'est le journaliste Guy Dautrive qui a eu cette idée-là. Quoi fabriquer ? Ben, des friandises. Parce que ce qui était très intéressant dans cette création, c'est qu'on n'avait pas besoin de la carte d'alimentation. La nourriture était contingentée. On avait droit à tant de grammes de beurre, de pain, tout ça. Et là, comme c'était fabriqué avec des dattes et des amandes qui venaient d'Afrique du Nord, il n'y avait pas besoin de la carte d'alimentation. Et en plus, c'était très, très nourrissant. Donc, ça a eu un succès fou.
Elle se trouvait où, cette coopérative ? À quelle adresse ? À quel endroit à Marseille ?
Alors, elle se trouvait rue des 13 escaliers, rue qui n'existe plus puisqu'il y a des travaux, pas loin de la porte d'Aix.
Est-ce qu'on peut revenir sur le parcours des fondateurs du croque-fruit ? C'était des personnes qui venaient beaucoup des auberges de jeunesse.
Alors, il y en avait, mais pas seulement. Hein. Guy Dautrive, oui, il a connu sa femme dans l'auberge de jeunesse. Le père de sa femme, lui aussi, enfin, je ne sais pas s'il était dans les auberges de jeunesse, mais il était lié avec ça. Mais par ailleurs, il y avait donc des artistes, des comédiens ou des ex-comédiens.
Est-ce qu'on peut rappeler leurs noms, là, des fondateurs, les principaux, et d'où ils venaient, quels étaient leurs parcours ?
Donc, je commence par Guy Dautrive, donc, auberge jeunesse. Le père de Guy Dautrive, le beau-père, je veux dire, aussi ce même parcours. Autrement, il y avait une des personnes importantes, Sylvain Etkin, qui était proche des trotskistes sans être encarté, et qui était un metteur en scène surréaliste, très connu dans les années 30. Il était très connu parce qu'il avait joué un Ubu enchaîné qui n'avait jamais été monté avant. Et dans une mise en scène surréaliste, il était également acteur de théâtre et de cinéma, mais ce qui était important, c'est qu'il était metteur en scène et dramaturge. Ma tante, Georgette, sa jeune sœur, elle, c'était les auberges de jeunesse et aussi trotskiste, elle était dans une organisation trotskiste. Son mari, Elio Gabet, pareil. D'ailleurs, on peut consulter le Métron et mon oncle, par alliance, Elio Gabet, il a fait plein de choses très très importantes dans le mouvement trotskiste. Chose que je ne savais pas d'ailleurs avant de regarder cette fiche. Vrai, il a eu des responsabilités importantes dans les mouvements trotskistes. Non, mon père n'est pas à la création parce que mon père était chimiste et travaillait pour les Vernis Valentine. Et au début de la guerre, les Vernis Valentine, ont été délocalisés. Ils étaient à Paris. Ils ont été délocalisés à Audierne. Donc, les employés des Vernis Valentine ont été envoyés à Audierne. Donc, mon père était à Audierne avec son père, d'ailleurs, et ma mère. Il est arrivé plus tard. Il ne fait pas partie des créateurs. Il a été très important ensuite dans la coopérative, mais il ne fait pas partie des créateurs.
Mais ce n'est pas lui qui a créé un peu la formule ?
Pas du tout, c'est le journaliste Guy Dautrive qui a apporté la formule. Il y a plusieurs témoignages, un de ma tante et...
Qu'est-ce qu'il a fait alors votre père, une fois qu'il est venu ici, dans cette coopérative ? A tenu un rôle quand même ?
Oui, il a tenu un rôle. D'après la fille de la compagne, la dernière compagne de mon oncle, il avait des rôles administratifs, peut-être comptabilité. Il a également créé un laboratoire en 41. Fin 41, j'ai un cahier de recettes. Il inventait des nouvelles recettes peut-être pour, j'imagine, pour le cas où on n'aurait pas eu les dates, les amandes, des compositions différentes.
Parlons de la recette de ce croque-fruit. C'était quoi ?
Au départ, selon la plupart des témoignages, Francis Lemarque et d'autres, c'est un mélange de dattes et d'amandes, donc venant d'Afrique du Nord, qui sont concassées ensemble. D'ailleurs, au début, ils concassaient manuellement, et ensuite, ils ont acheté une machine. Hein. Et donc, c'était mélangé ensemble et façonné en petits boudins, un peu comme les carambars.
Comment s'organiser le travail dans cette coopérative, donc rue des 13 escaliers, pour cette fabrication ? Donc je rappelle que cette coopérative a été créée à la fin de 1940.
Le 11 novembre 1940.
Et donc, comment on travaillait ? Il y avait aussi une manière de fonctionner qui était inhabituelle. Hein.
Absolument. Alors, c'est vrai que donc, c'était une entreprise, mais ils avaient décidé que c'était une entreprise sous forme coopérative, déjà. Donc, ça veut dire qu'à part les trois dirigeants, Jean Rougeul, Guy Dautrive et Sylvain Etkin, tout le monde gagnait la même chose. D'autre part, il fallait du temps pour vivre. Donc, ils ne travaillaient que la moitié de la journée. Et dans l'équipe, il y avait, je crois qu'il fallait qu'il soit 7. Il y a le concassage, il y a le façonnage, l'enrobage, je crois que c'est... Voilà, ils étaient 7. Et ils travaillaient, ils faisaient 3500 bouchées le matin ou l'après-midi. 3500. D'après les témoignages, avant ou après, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils allaient à la plage, ils draguaient. Mon oncle, par alliance, il continuait ses études pour devenir prof d'allemand.
Et ils avaient aussi un salaire hein, qui était intéressant.
Le salaire était très intéressant parce qu'ils gagnaient, pour une demi-journée de travail, ils gagnaient plus que les ouvriers dans le même secteur dans la région. Beaucoup plus.
Comment vous expliquez ce fonctionnement ? C'était parce que c'est leur idéologie, leur origine un peu politique et tout ça qui a fait qu'ils ont mis en pratique leurs idéaux ?
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Alors, la forme coopérative, elle était dans l'air depuis le 19e siècle. Hein. Léon Blum a soutenu des coopératives. D'ailleurs, il y a un des films où a joué mon oncle, Le crime de Monsieur Lange, à la fin du film, ils vont fabriquer une coopérative. C'était vraiment dans l'air. Et c'était l'égalité entre les gens et une bonne ambiance aussi.
Nous sommes l'équipe la plus rapide de toute cette belle entreprise. Moins de 3h30 pour toutes ces boîtes de belles bouchées. Formidable.
Allons-nous finir en 3h aujourd'hui ?
Ah, j'espère.
J'ai une répétition au rideau gris à 5h en plus. Hein ?
Et moi, j'ai un rendez-vous très urgent avec la plage.
Ah,
et moi, je dois faire danser mes marionnettes pour les bourgeoises de Marseille.
Ah. Et moi, j'ai presque fini mon tableau aux têtes cristallisées, mais il me manque toujours.
Oh. Ah. Et moi, je dois aller au centre américain de secours cet après-midi. J'ai un problème de papier à résoudre.
Ah, c'est important. Bah, tu vas te rendre beaucoup de temps, en heures, oui. Et des heures. Bon, bah, moi, en fait, j'aimerais bien partir un peu tôt parce que j'ai envie d'écrire une nouvelle chanson pour mon trio vocal, en fait.
Oh. Ouais. J'ai une réunion avec des anciens combattants espagnols de la colonne de Ruti.
Mais faut y aller, hein.
Allez. Qui étaient les principaux clients du croque-fruit ? Ils le vendaient où ?
Alors, ils allaient dans les pâtisseries. Hein.
Ici, à Marseille ?
Ben non, pas seulement à Marseille, justement. Pas seulement à Marseille, parce que j'ai vu... Bon, là, je fais une parenthèse. J'ai été à l'initiative de la création d'un fonds sur mon oncle à la Bibliothèque nationale de France, un fonds au département des arts du spectacle. Nous avons donné beaucoup de documents. Dans ces documents, il y a une lettre, d'ailleurs après j'en ai retrouvé une autre, de Limoges, une femme qui dit au directeur commercial, donc à Sylvain, nous n'en avons plus, quand est-ce que vous allez nous en apporter ? Donc ça veut dire qu'il rayonnait pour beaucoup plus qu'à Marseille. Hein.
Dans un peu toute la France, quoi, ils avaient des représentants.
Bah non, c'est je crois que c'est Sylvain, le directeur commercial, qui se déplaçait, ce qui lui permettait aussi d'ailleurs d'apporter des tracts.
J'ai lu donc qu'en fait, sous couvert de coopérative, derrière, il y avait un réseau de résistants trotskistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette couverture de cette coopérative du Croquefruit ?
Non, mais ça allait ensemble, quoi. Il faisait aussi ça. Le fait d'avoir embauché des gens de non-révolutionnaires, communistes, enfin antifascistes, c'était aussi une manière de résistance, la coopérative elle-même. Mais moi, ce que j'ai su, c'est que mon père et mon oncle sont rentrés à combat déjà à Marseille. Mais je ne sais pas, je ne me rappelle plus à quelle date. Dans les documents de l'armée, j'ai vu qu'ils étaient déjà à combat, mais pas au début, mais en tout cas déjà à Marseille. Et de toute façon, c'était un esprit de résistance contre la collaboration, contre Pétain. Tout ça. D'ailleurs, ils ont eu des ennuis. Hein. À un moment donné, Pétain, il est venu à Marseille. Les surréalistes et aussi d'autres ont été mis sur un bateau.
Est-ce que depuis le départ, ils étaient surveillés par le régime de Vichy depuis qu'ils se sont installés ici à Marseille? Est-ce que vous le savez, ou c'est plutôt vers la fin, vers 42, qu'ils ont commencé à avoir des problèmes?
Ce que je sais, c'est qu'il y a eu plusieurs fois des visites.
De qui ?
Eh ben, des visites de la police, par exemple, dans le labo de mon père.
Le labo se trouvait 119 rue de l'Évêché, je crois.
Exactement. Voilà. On a imaginé qu'ils pensaient qu'ils fabriquaient des bombes. Et simplement, ils testaient des nouvelles recettes de friandises. Hein.
Et qu'est-ce qu'on peut dire, justement, des actions de résistance des fondateurs du Croquefruit? Est-ce que pendant la guerre, ils étaient assez actifs en parallèle de leur présence ici à Marseille?
Bah, ça, je ne peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est que bon, ma tante et mon oncle sont remontés à Paris, donc je pense qu'ils ont arrêté de... Ma tante, elle a créé avec M. Kustlinger une assemblée générale des auberges de jeunesse à Marseille. Bon, ils sont remontés à Paris. Mon père et mon oncle, les autres je sais pas, hein, mais mon père et mon oncle sont donc rentrés à combat. Et après, quand la coopérative a été fermée en novembre 42, ils sont montés à Lyon pour rentrer dans un réseau de résistance.
On va parler un petit peu des personnalités qui sont passées au Croquefruit. Pas de tous, mais parce qu'il y a eu quand même à la fin hein, de l'aventure, il y avait quand même près de 200 personnes qui étaient passées par le Croquefruit. Ça générait beaucoup d'activités. Alors, qui sont passés un peu les gens connus, quoi?
Lola Mouloudji, Sylvia Bataille. Elle n'est pas restée longtemps, mais quand même, hein, elle y a travaillé. Il y a Francis Lemarque, le chanteur, son frère, son père. Voilà. Victor Serge, il était avec les surréalistes dans la Villa Herbel. Et son fils, par contre, il a travaillé à la coopérative. Yannick Bellon. Alors oui, c'est vrai, il y avait des peintres. Il y avait Malkin. Il y avait Joseph Reboul. Alors, il y avait le peintre surréaliste Jacques Hérold. Wilfredo Lahm. Il y avait aussi Dina Vierny. Oui, elle y a travaillé un peu. Oscar Dominguez, un peintre. Clara Geoffroy, c'est vrai que c'était la compagne de Marc Chirik, qui était un très grand révolutionnaire d'origine, enfin russe d'ailleurs, un grand ami de Jean Malaquais. Enfin, il considérait en tout cas que Malaquais était son meilleur ami. Et Malaquais, il est connu. Il y a travaillé, Malaquais, et il a fait partie des gens qui ont été licenciés.
Oui, voilà. Alors, tous les vendredis, j'ai lu, il y avait une AG.
Oui.
Et donc, on parlait de choses et d'autres. Et donc, à un moment donné, certains ont évoqué les conditions de travail, et oui, certains ont même été virés.
Il a été question de grève, mais personne ne sait, y compris la petite fille de Marc Chiry, qui connaît quand même très bien cette histoire. Nous ne savons pas s'ils l'ont organisé, mais il a été évoqué l'idée d'une grève. Et puis, moi, j'ai rencontré une personne à côté de Bordeaux qui, elle a été licenciée. Elle était assez amère, d'ailleurs, par rapport à la coopérative. Elle était rentrée à la coopérative grâce à mon père. Elle était chimiste, et mon père aussi. Et pour finir leurs études, ils sont allés à Paris au début de la guerre. Elle était trotskiste dans l'organisation trotskiste avec ma tante. Georges Titkin. Donc, elle, bien sûr, elle se met à parler avec lui. Et après, ils sont restés en contact. Et quand il y a eu de la place, Lucien lui a dit de venir dans la coopérative. Mais malheureusement, elle faisait partie des derniers arrivés. Et ceux qui étaient licenciés, c'est marqué dans les statuts d'ailleurs, que ceux qui étaient licenciés, c'était ceux qui, les derniers arrivés plutôt. S'il y avait moins de commandes, c'était ça.
Mais Jean Malaquais, par exemple, il n'a pas été viré parce qu'il n'y avait pas assez de commandes. C'est parce qu'il avait un sacré caractère.
Oui, il avait un sacré caractère, c'est connu ça.
Qu'est-ce qui s'est passé avec ceux qui ont été virés ou ceux, parce que ça se fait qu'on appelle à faire grève, à améliorer les conditions de travail, alors que déjà, à la base, la coopérative avait mis en place un système qui était un système très égalitaire, on était bien payé.
Oui, mais il y avait quand même des gens très... très révoltés, traditionnellement très révoltés. Marc Chirig, Malaquais. Odette, c'est autre chose. C'est parce qu'il y avait, elle m'a dit que c'est parce qu'il y avait plus de commandes. Enfin, il y avait moins de commandes.
Mais donc, qu'est-ce qu'ils reprochaient là? C'est quelques-uns qui se sont fait virer.
Moi, ce que j'ai su, c'est que, enfin, pour Malaquais, c'est qu'ils trouvaient que... ils avaient l'impression que c'était devenu comme une entreprise capitaliste. Mais après, ils sont restés. Lui, il est parti aux États-Unis, hein, Malaquais. Et Marc et lui ont correspondu pendant des années. Moi, j'ai lu toute leur correspondance.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, metaphor's friend, on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.
L'aliment qui réjouit.
La friandise nourrit. Fruits dorés, fruits adorés.
Je pense donc je suis Descartes. Je mange donc croque-fruits sans carte.
Oui, qui n'est pas répondu.
Alors, on parlait tout à l'heure de, donc des activités de travail, combien d'heures il travaillait, mais aussi de ce qu'il faisait en dehors. Maintenant, est-ce qu'on peut développer un peu plus et raconter un peu quelles étaient les activités des uns et des autres en dehors du travail du croque-fruit ? Ils étaient, on le rappelle, en attente à Marseille pour partir vers les États-Unis. Le Mexique ou ailleurs, j'ai pas dit tous, mais disons que ici c'était quand même un lieu de passage, c'était pas un lieu pour rester. On était en pleine guerre, les Allemands allaient débarquer en novembre 42, donc à Marseille, voilà, le croque-fruit permettait d'avoir un peu de sous pour pouvoir rester ici, mais ensuite on envisageait quand même de continuer sa route puisqu'on était pourchassé.
Bah, écoutez, ce que je sais, moi, c'est de toutes ces personnes qui ont travaillé à la coopérative, à part Malaquais, je pense qu'il n'y en a aucun qui est parti aux États-Unis. À ma connaissance, il y en a très peu qui sont partis, très très, très peu.
Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient à Marseille en dehors du croque-fruit ? Quelles étaient les activités ?
Moi, je sais que Francis Lemarque dit qu'il allait à la plage.
Léo Sauvage a créé les Compagnons de la Basoche.
Oui, c'est ça, oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'a fait Itkin, les frères Itkin, ils faisaient quoi en dehors du croque-fruit ?
Alors, mon père, je ne sais pas, si, il m'a fait moi, avec maman. Mais Sylvain, il continuait à jouer. Hein,
Une pièce de théâtre ?
Oui, tout à fait. Ah oui, pas de cinéma.
On sait où il jouait ici ? Il y avait des salles ?
Ah, mais c'était pas Marseille. Je crois que c'était à côté de Marseille. Il est allé. Comment elle s'appelle cette.
À Aix ?
Peut-être, oui. Ah, ce qu'il a fait aussi ? Peut-être, parce que c'est pas prouvé. Et il aurait participé à la mise en scène du Songe d'une nuit d'été chez la comtesse Pastré. Il aurait participé, c'est pas lui le metteur en scène, mais d'après des témoignages, il aurait participé à la mise en scène, à cette mise en scène.
Ils avaient des cafés.
Effectivement, ils se réunissaient avec d'ailleurs les peintres, les artistes surréalistes au Brûleur de Loup, qui d'ailleurs c'était au coin du quai des Belges.
D'accord. Quelles étaient leurs relations avec Varian Fry, qui était l'Américain, qui était missionné pour fuir les intellectuels ? Est-ce qu'ils avaient des relations, notamment avec la Villa Herbel ?
Alors, en tout cas, Sylvain Itkin, mon oncle, il avait beaucoup de relations avec la... Il connaissait bien Breton, et il était souvent à la Villa Herbel. D'ailleurs,
Rappeler, c'était quoi la Villa Herbel ?
Alors, la Villa Herbel, ça appartenait à. C'était dans le quartier de la Pomme, et ça appartenait à un pharmacien, il me semble, qui leur avait loué. Et il y avait dedans des. Vivaient là-bas des surréalistes. Varian Fry, bien sûr, mais Breton, Jacqueline Lambat. Victor Serge, des peintres. Et d'ailleurs, ils avaient beaucoup d'activités. Ils ont créé le jeu de Marseille, le jeu de cartes de Marseille. Et alors, est-ce qu'il y avait, à part mon oncle, je ne sais pas, ceux de la coopérative, s'il y en avait d'autres qui venaient, mais mon oncle allait souvent à la Villa Herbel. Hein. D'ailleurs, il y a une photo où on le voit en train de... dans la neige, avec Breton, Aube-Breton et Jacques Hérold. Ils sont allés chercher du bois parce qu'il fait très froid dans cette année-là. Il fait très froid à Marseille, il y a de la neige. Et il y a une autre photo où on voit, il y a une vente aux enchères fictive d'œuvres, et c'est Sylvain Itkin, mon oncle, qui fait le commissaire-priseur. Il y a donc des traces de ces activités-là.
Cette coopérative a tourné pendant 2 ans. plus ou moins bien, mais il y a eu quand même de plus en plus de soupçons de la part des autorités, non, de Vichy, oui. Ici à Marseille. C'était pas un long fleuve tranquille.
Ah, non, mais voilà, ils venaient, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils croyaient que mon père fabriquait des bombes. Il y a eu plus de surveillance. Ma tante aussi, elle a eu la visite de la police. Mais je ne sais pas exactement quand.
Comment ça se passait concrètement pour ceux qui fuyaient la zone occupée? Donc beaucoup d'artistes, d'intellectuels, de militants politiques, et donc qui venaient à Marseille, qui était considéré comme un lieu de protection. Donc il y avait quoi? Un réseau depuis Paris où les gens qui fuyaient à Paris, les intellectuels, savaient qu'en arrivant à Marseille, ils pouvaient s'adresser au croque-fruit, ils connaissaient les membres, enfin c'était bien organisé tout ça?
Déjà, de toute façon, pour rentrer au croque-fruit, il fallait venir de la part de quelqu'un. Hein, ça, c'était très important. Et donc, tous ceux qui sont arrivés venaient de la part de quelqu'un. Lisa, non, elle est venue de la part de Blaise Treux, un trotskiste très, très connu. Enfin, deux, ils sont deux. Moi, j'ai connu quelqu'un. Elle venait des auberges de jeunesse. Mais c'est pareil, je crois que c'était aussi par Blaise Treux qu'elle était arrivée. Il y avait un bruit qui courait à Paris, comme quoi on pouvait aller... à Marseille, qu'il se passait quelque chose à Marseille, et on savait qu'on allait retrouver Itkin, Sylvain Itkin.
Donc c'est vraiment un réseau bien, bien réfléchi, bien organisé.
Oui, bien contrôlé. Ce qui n'empêche pas effectivement qu'ils avaient des visites des soupçons. Mais ils ont quand même réussi à survivre. Hein. Non mais c'est étonnant quand on voit... les lois contre les révolutionnaires et contre avec la collaboration à Pétain. Hier, moi, je suis allée au mémorial des déportations. À aucun moment, ils ne parlent de la coopérative. Personne n'en parle. On ne parle que des dangers qui sont courus. Mais je sais pas, c'est comme un phalanstère, quoi, cette coopérative, quelque part.
Moi, j'ai travaillé beaucoup sur le croque-fruit il y a déjà quelques années, et j'ai réussi à mettre la main, à tomber sur une liste qui avait été créée par Guy Dautrive. C'est-à-dire qu'il notait l'arrivée des gens qui travaillaient au croque-fruit, leur nom et leur adresse. Et c'est un document assez précieux. Je crois que j'avais relevé près de 250 noms. C'était une liste. On la connaissait pas, quoi, avant. Hein. Vous avez pu la regarder. Hein.
Eh ben oui, parce que vous me l'avez fournie à l'époque. C'est la fille de Guy Dautrive. C'est par la fille de Guy Dautrive que vous l'avez eue. Alors, c'est une liste qui date de la fin. Hein. Il y a pas tout le monde, hein, ceux qui étaient là avant. Et c'est vrai que c'est étonnant qu'ils mettent l'adresse. Moi, j'ai toujours trouvé ça très étonnant. Mais là, effectivement, on a beaucoup de noms. Et on voit aussi qu'il n'y a pas seulement des gens très connus. Il y a tout le monde, tous ceux qui étaient contre la collaboration, en fait. Et dans cette liste, oui, il y a peut-être 150 ou 200 noms, mais en fait, il y a des gens qui sont arrivés au début, après ils sont repartis, c'est pour ça que je dis que c'est à peu près 300 personnes, quoi. Et c'est intéressant d'avoir cette liste. Guy Dautrive, il avait apporté la recette, mais il était aussi le chef du personnel. Dans la coopérative, il y avait les trois dirigeants, c'était Jean Rougeul qui était le patron parce qu'il n'était pas juif, même s'il avait été quand même... il avait fait partie du groupe Octobre, mais comme il avait... Son père était de droite et très, très catholique, et militaire même, je crois. Cette coopérative, ils n'avaient pas le droit de créer ça. On n'avait pas le droit de créer.
Quoi ?
Eh bien, parce que les Juifs n'étaient pas autorisés à créer des entreprises avec les lois.
Dès la fin des années 40 ?
Bah avant, en juin déjà, hein. En juin déjà, il y a...
En juin 1940.
Oui, en juin 1940, il y a la loi, les lois de restriction des... Ils n'ont plus le droit de rien faire, hein. Et en particulier de créer une entreprise. C'est incroyable qu'ils aient réussi à faire ça. C'est hallucinant, je trouve que... Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus, parce que c'est un acte de courage et de résistance qui est énorme, je veux dire... Vraiment, ça m'étonne toujours. Sylvain, mon oncle, il était le directeur commercial, donc il se déplaçait beaucoup. Et puis, Guy Dautrive, il était directeur technique et chef du personnel. D'ailleurs, chaque personne qui arrivait de la part de quelqu'un, elle faisait un stage d'une semaine ou deux. Pendant ce stage, la personne était payée. Ah, il y a une chose qui est drôle aussi que raconte Francis Lemarque, c'est que pendant qu'on travaillait, on avait le droit de manger des croque-fruits.
C'était pas décompté du salaire.
Non. Et puis, il y avait des prévisions pour le cas où il y aurait moins de commandes et il faut licencier. Alors, si c'est un couple, on en garde un sur les deux. Et puis, ce qui était prévu, c'est un sursalaire. C'est ce que ma tante Georgette a écrit. Et il y avait aussi un genre d'allocation familiale s'ils avaient des enfants. C'était vraiment... très en avance.
Oui, mais ils avaient déjà tout imaginé. On dirait que tout était déjà dans leur tête, là.
Peut-être, oui. Oui, je pense que tout était dans leur tête parce que c'était l'esprit des coopératives, quoi. Et l'esprit de protéger les travailleurs. C'est aussi ça, hein. C'est vrai qu'il y avait, comme on dit, il y avait des gens proches des trotskistes, mais il y avait des communistes, des socialistes. C'était vraiment... créer une autre société, enfin l'idée d'une autre société, pas une société capitaliste.
Fin de l'année 1942, le 11 novembre, c'est-à-dire au moment où il y a l'invasion des Allemands de la zone sud, ça sonne la fin de l'aventure du croque-fruit.
Eh oui, oui, oui. De toute façon, il n'aurait pas pu avoir de matières premières puisque les Alliés étaient en Afrique du Nord et donc sans doute les bateaux ne pouvaient plus venir. Effectivement, c'était la fin, les Allemands étaient là.
Est-ce qu'on sait comment, il y a des témoignages qui racontent un peu cette fin, ça s'est passé comment, finalement, ils ont brutalement arrêté la coopérative, ils ont fermé, ils ont plié bagages, chacun est parti dans une direction?
Eh bien ça, je ne sais pas. Il y en a qui sont repartis à Paris, mon oncle et mon père sont partis à Lyon, ils habitaient pas loin.
Dirti cosa, è la tua moto che sta giù, che vorrei guidare io, o meglio averti qui vicino a me.
Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, non voglio di più acquistare,
ti fai bene.
Du fait de la présence des alliés de l'autre côté de la Méditerranée, il n'est plus possible de s'approvisionner en dattes et amandes. Après décembre, la coopérative fermera définitivement avec l'arrivée des troupes allemandes à Marseille. Voici ce que dit un document daté de février 1943, adressé à Sylvain Itkin, le directeur commercial. En ma qualité d'administrateur provisoire du fruit mordoré, je vous informe que dans le but d'organiser complètement cette entreprise et suivant les instructions reçues du commissariat général aux questions juives, le personnel de race juive doit être licencié. En conséquence, je vous prie de noter que vos fonctions d'agent commercial de la dite firme cessent officiellement et que la présente constitue un licenciement définitif en ce qui vous concerne.
Est-ce qu'il y a des témoignages de certaines personnes qui sont passées par la coopérative, qui ont raconté cette aventure et que vous avez peut-être pu rencontrer, hein?
Ben, j'ai rencontré Lucienne Zoudachkine qui m'en a parlé, hein, celle de... dont je disais qu'elle était encore vivante en mai. Là.
Qu'est-ce qu'elle disait, hein? Qu'est-ce qu'elle a raconté?
Ben, elle racontait l'ambiance. Elle disait aussi qu'elle, elle était pas à la production, elle était dactylo. Il y avait le groupe des artistes et puis les sourds, ils étaient un peu séparés. Voilà ce qu'elle m'avait dit. J'ai rencontré plusieurs fois à Marseille un couple et lui, il disait que c'était la plus belle période de sa vie. Parce qu'il y avait une ambiance fraternelle, quoi.
Malgré les conditions difficiles de vie et cette période de la guerre.
Oui, oui. Je les ai rencontrés plusieurs fois.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette aventure? Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette aventure? Alors, en tant que personne qui était quand même proche des fondateurs, hein, des frères Itkin, c'était quand même de la famille. On dirait que ça vous a quand même habité pendant une partie de votre vie, non, c'est cette aventure, puisque ça fait des années et des années que vous en parlez, vous faites des conférences. Je vous ai connu à Marseille il y a plus d'une dizaine d'années. Vous aviez organisé à l'époque un spectacle autour du croque-fruit. Pour vous, personnellement, ça vous a marqué, non, cette histoire?
Oui, énormément, vraiment énormément. Quand ma tante est morte et que j'ai proposé à ma cousine de constituer ce fonds à l'ABN, à ce moment-là, je suis rentrée dans toute cette histoire. C'est-à-dire, pour donner les documents, j'ai lu tout ça. J'étais émerveillée. D'autant plus que moi, j'avais quand même des idées un peu à gauche, n'est-ce pas? On peut dire.
Vous avez beaucoup milité, vous?
Oui, oui, j'étais trotskiste pendant des années. Oui.
Donc c'était une sorte de tradition familiale.
Oui, un peu, oui. On peut dire, oui, oui, oui. Et oui, oui, je me suis plongée dans l'histoire de... J'ai commencé par mon oncle, cet homme de théâtre extraordinaire.
Sylvain Itkin.
Sylvain Itkin. Et après, mon père, ma tante et tout. On a donné le fond dans les années 80.
Pourquoi vous êtes attaché à cette histoire, hein? C'est-à-dire parce que certains, ont eu une histoire particulière, même pendant la guerre, ils le gardent pour eux. Mais vous avez voulu quand même la faire connaître, non, par tous les moyens.
De toute façon, l'histoire, ça m'a toujours intéressée. Et en plus, en 81, je suis devenue bibliothécaire. Et donc, en fait, c'est un peu naturel pour un bibliothécaire ou une bibliothécaire de s'intéresser à l'histoire, quoi. Je pense que c'est seulement ça, hein.
Aujourd'hui, on en parle de cette histoire. Il y a eu... Il y a un livre qui est sorti sur Sylvain Itkin.
Oui.
Bon. Vous pouvez nous dire quelques mots?
Oui, il y a un livre qui est sorti en octobre. Alors, c'est sur Sylvain Itkin, hein, mais évidemment, dans le livre, on parle aussi de la coopérative, mais ce n'est pas un livre sur la coopérative. Par contre, il y a un livre, un roman qui a été écrit il y a plusieurs années, qui s'appelle « Le brûleur de loups » par Brigitte Allègre. Et là, c'est un roman, mais ça restitue pas mal l'esprit de la coopérative. Et ça vaut le coup de le lire aussi. En 2013, quand on a fait notre spectacle, il y avait aussi quelque chose qui avait été créé par Ici Même. Dans Ici Même, il y avait à cet endroit-là, il y a ceci, il y a eu ceci. Et il n'y a rien sur la coopérative. Le parcours dans Marseille, il n'y avait rien sur la coopérative. Moi, j'ai trouvé que ça manquait beaucoup, ça.
Mais il va y avoir peut-être une rue des frères Itkin à Marseille, ou c'est votre rêve?
C'est mon rêve, oui, c'est mon rêve. J'ai essayé de voir qui je peux voir, puisque de toute façon la coopérative, effectivement, la rue en question, la rue des Escaliers n'existe plus, il pourrait y avoir une rue des frères Itkin.
Pour les idéaux du croque-fruit, vous les avez bien dans votre tête? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a guidé aussi dans votre vie?
J'ai quand même été, en tant que militante, j'ai décidé d'être établie. Vous savez ce que c'est être établie?
Justement, dites-nous.
Un établi en politique, hein. Un établi, c'est quelqu'un qui va travailler en usine pour essayer de convaincre la classe ouvrière que la révolution est possible. Et donc moi, j'ai décidé ça. J'ai été ouvrière pendant 7 ans, pas tout à fait 7 ans, parce que dans ces 7 ans, il y a aussi 7 mois de formation. J'ai un diplôme de câbleuse en électronique qui ne me servira plus. Et un jour, j'ai compris qu'il n'y avait aucune chance que la révolution... Enfin, pour moi, j'avais l'impression que ce n'était pas possible, donc j'ai quitté le militantisme. Et je suis devenue bibliothécaire et je me suis consacrée, entre autres, à la coopérative, à faire connaître cette histoire.
Et aujourd'hui, les archives, vos archives sont donc en lieu sûr, vous avez tout donné. Qu'est-ce qui reste à faire?
Moi, j'ai ce que j'avais chez moi, j'ai tout donné, hein, ce que j'ai trouvé chez... Ma cousine, elle a encore des documents. C'est normal, c'est la fille de Sylvain. Donc...
Qu'est-ce qui manque encore comme archive concernant le croque-fruit?
Peut-être qu'il ne manque plus rien concernant le croque-fruit. Il y a peut-être des choses qui manquent concernant Sylvain, c'est tout.
Il manque des photos de l'entreprise. Du croque-fruit, il n'y en a qu'une seule.
Il y a une photo.
Et alors que, paraît-il, il y aurait eu un reportage photographique ou même de la vidéo.
Ça, c'est vous qui avez imaginé ça. Je pense qu'il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de...
Paraît pas un peu étonnant qu'il n'y ait pas eu d'autres photos? Moi, pour moi, je pense qu'il y a des photos.
En tout cas, on ne sait pas où elles sont. Hein. S'il y en a, on ne sait pas. Effectivement, la seule photo qu'on connaît, c'est celle de Jacques Hérol en train d'enrober des croque-fruits avec...
Donc, s'il y a eu une photo, il y en a eu plusieurs. Forcément, la personne qui l'a pris a pris d'autres photos.
On ne sait pas qui c'est, de toute façon. Mais enfin, cette photo, elle est très célèbre. Quand on parle du croque-fruit, on voit Jacques Hérol, de toute façon.
Donc, à nos auditeurs et aux personnes qui vont écouter cette émission, on va les charger d'essayer de trouver d'autres photos du croque-fruit. Ça s'est passé à Marseille, oui. Entre la fin de l'année 1940 et la fin de l'année 1942, rue 13 Escaliers, du côté de la porte d'Aix aujourd'hui. Et donc peut-être qu'il va y avoir d'autres générations qui vont chercher.
Bah écoutez, je l'espère, parce que ça serait bien qu'on ait plus de documents. Et en plus, ce que je considère, c'est que cette coopérative, cette entreprise, ce qui s'est passé, ça fait partie de l'histoire de Marseille. On parle très peu de ça. Pourtant, c'est un modèle.
Merci Irène Itkin. Au revoir.
Au revoir.
Et je chante, et tu chantes, la musique nous enchante. Plus je chante, plus tu chantes, la musique est magique. Et je chante, et tu chantes, la musique nous enchante.
Dessin de Jean Herfeld avec l'arbre de vie et le serpent qui pleure parce que Eve choisit une boîte de trois fruits au lieu de la pomme maudite.
Vous venez d'écouter Voix Marseillaise, une émission de David Hacoun. Merci à Sidi de Radio Galère et je vous dis à bientôt. Au revoir. Thank you.